Europe 1. Europe 1. 15h, 16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Nous sommes le 7 octobre 1910 à Weymouth, au sud de l'Angleterre, et les troupes de la Royal Navy stationnées dans ce port de la Manche s'apprêtent à recevoir des visiteurs de marque, en l'espèce le prince Mackellen d'Abyssinie, autre nom de l'Éthiopie, qui vient avec sa suite découvrir le HMS Dreadnought, le navire amiral effleurant de la marine britannique. Alors que le bureau des affaires étrangères l'a prévenu un peu à la dernière minute par un télégramme, le commandant du navire, Sir William H. May, s'affole pour recevoir dignement ses visiteurs de haut rang. Aussi, on court partout à la recherche d'un drapeau d'Abyssinie qui fait malheureusement défaut, avant de se replier faute de mieux sur celui de Zanzibar, ce qui passe pour être à peu près la même chose. C'est aussi d'ailleurs l'hymne de Zanzibar que joue la fanfare militaire pendant qu'une haie d'honneur accueille la prestigieuse délégation tout juste arrivée de Londres par un train spécial. Ils sont quatre à s'avancer sur la passerelle, leurs turbans rehaussés de bijoux, les corps drapés de soie précieuse qui retombent sur leurs cocasses chaussures pointues. Deux officiers britanniques les accompagnent. La visite dure une petite heure de la salle des turbines aux tourelles d'artillerie, des compartiments étanches au logement des officiers. Excepté un invité peut-être impressionné qui reste silencieux, les étrangers marquent leur ébahissement par des interjections dans une langue aussi étrange qu'incompréhensible, mais fort heureusement traduite par l'un de leurs accompagnateurs. Puis, on partage gaiement un thé et on s'échange des médailles militaires avant que le prince Mackellen et ses amis ne repartent. Une fois arrivés en gare de Paddington à Londres, les invités éthiopiens ne se rendent pas dans quelques ministères ou palais officiels, mais s'engagent sur Marylebone Road jusqu'au quartier résidentiel de Bloomsbury, puis pénètrent dans la maison du 46 Gordon Square. Là, dans le salon, ils ôtent leurs turbans et étoffes et, dans un éclat de rire général, ils se débarbouillent du maquillage noir qui couvre leur visage. Car oui, ils ne sont ni abyssiniens, ni étrangers, mais bien londoniens. Ils se prénomment Adrian Duncan Anthony et même Virginia, qui était restée silencieuse pour que sa voix ne la trahisse pas, et sont particulièrement hilares d'avoir si facilement réussi leur canular. Horace de Vercoul, qui en avait eu l'idée, envoie une photo et une lettre au journal Daily Mirror. La supercherie qui ridiculise l'armée est dévoilée et fera jaser jusqu'à la Chambre des Lords. Ce coup d'éclat est la première manifestation médiatique d'une bande qui va souvent faire parler d'elle, et dont on parle d'ailleurs encore autrement que pour leur farce. Leur nom vient de ce quartier londonien où ils se sont pour beaucoup rencontrés et autour duquel ils ont longtemps gravité et vécu, Bloomsbury, un groupe d'esprit aussi libre qu'excentrique. Tout n'a pas débuté dans le quartier de Londres dont le groupe prendra donc le nom, mais à une centaine de kilomètres de là, au sein de la prestigieuse université de Cambridge que Toby Stephen, fils de bonne famille londonienne, intègre en 1899. Comme pour beaucoup de ses riches et bourgeois camarades, l'université est une véritable bouffée d'air en comparaison aux pesantes écoles qui forment les adolescents de la bonne société britannique. À Cambridge, encore plus qu'Oxford, réputée plus conservatrice, les jeunes gens découvrent une ouverture intellectuelle que ne leur offrait pas le giron familial ou le carcan des lycées à la discipline toute militaire. Au-delà des cours, c'est aussi dans des cercles de réflexion et de discussion que beaucoup d'étudiants se retrouvent, telle la mythique Société des Apôtres, une organisation semi-secrète dont les membres se réunissent pour deviser des choses du monde avec une totale liberté d'esprit. Toby Stephen n'est pas élu au sein des Apôtres, mais les côtoie de près et fonde sa propre association, la Midnight Society, qui se réunit, comme son nom l'indique, à minuit tous les samedis pour parler philosophie. C'est dans ce milieu intellectuellement stimulant et moralement émancipateur que Toby et son frère cadet Adrian, qui le rejoint, rencontrent ceux qui deviendront de précieux amis. Ils se nomment Clive Bell, Lytton Strachey, Leonard Woolf, Desmond McCarthy ou John Maynard Keynes. que des hommes, bien entendu, car même si quelques femmes sont tolérées à Cambridge, elles ne peuvent obtenir de diplôme et ne sont pas considérées comme des membres à part entière de la communauté étudiante. Les deux sœurs de Toby, Vanessa et Virginia, n'ont-elles même pas tenté leur chance puisque leur père, Sir Leslie Stephen, leur a tout bonnement interdit l'université, mais elles n'en sont pas moins parfaitement éduquées. Et elles sont des artistes. Virginia est versée dans les lettres, Vanessa dans la peinture. Et quand le tyrannique paternel décède en 1904, leur mère a disparu il y a bien longtemps, le vent de liberté qui soufflait sur Cambridge va désormais envelopper toute la fratrie. Les quatre enfants, Stephen, quittent alors la maison cossue voisinage de Kensington et s'installent à Bloomsbury, quartier plutôt bohème, loin de la société huppée qui fut jusqu'à maintenant leur environnement, et pour eux, c'est une libération. Ils agencent et décorent la maison du 46 Gordon Square comme ils en ont envie, sans se soucier du formalisme auquel ils ont tous été habitués en fréquentant les mornes salons victoriens de la bourgeoisie. Toby, en bon meneur de bande, au charme magnétique, convie rapidement ses amis de Cambridge à des réunions tous les jeudis soirs. C'est ainsi que la communauté estudiantine se transpose dans un cocon domestique et se féminise. Ces radieux jeunes gens échangent leurs réflexions sur le beau, sur la vie, sur le monde. Là-bas, à l'inverse des salons fréquentés par les lords et les militaires, on peut dire non, on peut s'interrompre, se confronter, se taire pour mieux réfléchir en buvant du thé ou du whisky à l'heure qu'on souhaite. Le maître spirituel de cette petite communauté est le philosophe George Edward Moore, qui a récemment développé une pensée dans laquelle les sentiments esthétiques et affectifs sont une nécessité absolue aux réflexions éthiques. Mais on parle un peu trop philosophie au goût de Vanessa, qui organise de son côté d'autres soirées, les vendredis cette fois-ci, pour discuter art et peinture avec le même cercle qui s'élargit au gré des rencontres. En 1906, Toby Stephen meurt lors d'un voyage. Il avait 26 ans. C'est un choc pour le petit cercle de Bloomsbury. Lytton Strachey, l'un de ses plus proches amis, critique littéraire averti, prend d'une certaine manière le relais du frère disparu. Peu après, Vanessa épouse Clive Bell, lui-même critique d'art. C'est là la première union officielle au sein de la bande, déjà parcourue par de nombreuses aventures charnelles et sentimentales, depuis même les viriles chambrées de Cambridge. Les rendez-vous de Gordon Square continuent. Un soir de 1908, Lytton Strachey entre dans le salon où sont installées les deux sœurs Stephen et remarque une tache blanche sur la jupe de Vanessa. « Sperme », lâche-t-il simplement. Passé une seconde d'étonnement, les trois amis explosent de rire et Virginia racontera plus tard ce moment comme symptomatique du tour qu'ont pris leurs échanges. Loin des bonnes mœurs victoriennes, du monde étriqué dont ils sont tous issus, les jeunes gens de Bloomsbury parlent ouvertement de sperme, de sexe, chose parfaitement impensable pour beaucoup d'esprits, même les plus ouverts. Virginia dira d'ailleurs, avec ce seul mot, toutes les barrières de la réticence et de la réserve tombèrent. Un flot de fluide sacré semblait nous submerger. Nous discutions de copulation avec le même enthousiasme et la même ouverture que si nous avions discuté de la nature du bien. Et s'ils en discutent, ils s'y adonnent aussi avec allégresse. Virginia préfère plutôt les femmes. Vanessa aime les hommes et son mariage avec Clive Bell n'est pas vu comme un serment de fidélité puisque, en commun accord avec son époux, elle se plaît à des aventures nombreuses. À Bloomsbury, on ne veut pas s'empêcher de vivre dans les voluptés du désir. Mais on ne fait pas que batifoler, loin de là. Et l'année 1910, qui fut celle du charmant canular que je vous racontais au début de mon récit, signe de leur fantaisie farceuse, est aussi celle où la modernité artistique va pénétrer l'Angleterre sous les auspices de certains des habitués de Bloomsbury. Nous sommes le 8 novembre 1910, c'est jour de vernissage à la Grafton Gallery de Londres. L'exposition est organisée par Roger Fry, lui-même ancien de Cambridge et habitué des soirées de Gordon Square à Bloomsbury. Fin historien de l'art, il a fait de nombreux voyages à Paris et s'est ouvert aux avant-gardes qui s'y déploient. Dans les quatre grandes salles de la galerie, les spectateurs sont nombreux à observer les Cézanne, les Gauguin, les Van Gogh, quelques Matisse et Picasso aussi, des peintres qui n'ont pour la plupart jamais été exposés en Grande-Bretagne et sont encore largement inconnus. Roger Fry a choisi d'intituler l'événement « Manet et les post-impressionnistes ». C'est lui qui élabore ce qualificatif resté dans l'histoire pour désigner les peintres qui, du pointillisme au symbolisme, ont dépassé la révolution engendrée, voilà quelques décennies plus tôt, par leurs aînés impressionnistes. Dans une Angleterre plutôt rétive aux récents bouleversements artistiques et volontiers hargneuse contre les Français, l'exposition fait grand bruit. Une large part de la presse conspue un art jugé dégénéré. Roger Fry, lui, théorise et défend l'aspect majeur de ces nouvelles propositions formelles. Il organise même une seconde exposition, 2 ans plus tard. Le cubisme y est largement représenté. Et cette fois-ci, ses amis de Bloomsbury, Vanessa Bell et Duncan Grant, qui a réalisé l'affiche, participent en tant qu'artistes aux côtés de Picasso, Vlaminck ou Dorin. Leurs toiles sont abondamment incomprises et critiquées, et certains journalistes commencent à moquer ce groupe décrit comme une semi-secte de bourgeois oisifs et amoraux. Oisifs, hein, ils ne le sont pas pourtant tant que ça, plutôt productifs même. Vanessa Bell, Duncan Grant et Roger Fry créent en 1913 les ateliers Omega. Au 33 Fitzroy Square, toujours dans le quartier de Bloomsbury, l'immeuble est à la fois une boutique, une galerie, un atelier de création et un lieu de spectacle. Des artistes participent à la conception de meubles, de tissus et objets de toutes sortes dans une volonté de rapprochement entre les beaux-arts et les arts appliqués. Loin du sinistre mobilier d'alors, les couleurs explosent, sont parfois même criardes. Ce foisonnement décoratif affranchi de la figuration influe d'ailleurs sur la peinture de Vanessa Bell, dont les toiles virent à cette époque vers l'abstraction, une totale nouveauté en Angleterre. L'organisation même des ateliers Omega est singulière. La participation de chacun demeure anonyme. Tous les objets sont signés collectivement de la seule lettre grecque Omega. En échange, on reçoit un petit salaire. L'idée est d'assurer un revenu aux artistes afin qu'ils puissent s'adonner à leur propre pratique, quand bien même pour ceux de Bloomsbury, pour la plupart héritiers, le travail n'est pas toujours une nécessité. Ce modèle commercial original leur a peut-être été suggéré par l'un des amis des membres du groupe, John Maynard Keynes, lui aussi ancien de Cambridge, un temps locataire dans la maison de Gordon Square. Il est économiste et développe une pensée originale qui sera amenée à rayonner sur le XXe siècle. Entre-temps, Virginia a pris le nom sous lequel elle deviendra célèbre. Elle s'est mariée en 1912 avec Leonard Woolfe, ami de feu son frère Toby à Cambridge. Union qui scelle certainement plus une émulation intellectuelle que la réelle volonté de fonder un foyer. La conscience politique de Leonard, aiguisée notamment par un long séjour à Ceylan, l'actuel Sri Lanka, dont il ramènera un roman anti-impérialiste, nourrit certainement l'imaginaire créatif de Virginia, qui, après avoir publié des textes dans le supplément littéraire du Times, fait paraître un premier roman en 1915, « La traversée des apparences », l'histoire du passage d'une jeune femme à l'âge adulte sur fond de satire sociale. Les époux Woolfe s'installent au 29 Fitzroy Square, puisque tout ce petit monde vit dans un mouchoir de poche. Et c'est dans leur propre salon qu'ils installent en 1917 une presse à imprimer pour donner naissance aux éditions Hogarth du nom de leur maison. Leur première publication, Two Stories, comprend un texte de Virginia et un de Leonard. Le couple publiera ensuite beaucoup d'ouvrages novateurs en Angleterre, de la littérature russe notamment, et éditera bien sûr leurs amis. On compte, entre autres, des textes sur l'art de Clive Bell ou Roger Fry, des romans de Vita Sackville-West, qui sera plus tard le grand amour de Virginia, ou des ouvrages économiques de Keynes. De la finance à la peinture, de la critique littéraire au roman, il n'y a pas vraiment d'homogénéité des pratiques et des productions dans le groupe de Bloomsbury. Et personne n'aurait idée d'en revendiquer une. Il n'y a d'ailleurs pas vraiment un groupe, mais plutôt une constellation de personnages, de relations qui se croisent. Il y a les amours, les amitiés, les mondanités intellectuelles aussi, notamment dans le salon londonien ou la résidence de campagne de Lady Ottoline Morell, une mécène fantasque, elle-même peintre à l'occasion et épouse d'un député libéral. Certains à Bloomsbury sont clairement politisés, comme Leonard Woolfe, actif au sein du Parti travailliste et de la Fabian Society, cercle de réflexion progressiste. D'autres regardent le monde de loin. Mais tous ont en commun de tenter de vivre comme ils l'entendent, loin de tout carcan social et avec comme principale velléité morale et politique celle de la paix, d'autant plus, comme vous allez le voir, dans un monde en guerre. Le début de la Première Guerre mondiale en 1914 n'a pas en Angleterre les mêmes conséquences que sur le continent. le conflit est d'abord lointain, et ce n'est qu'en 1916 que la conscription devient obligatoire. Si Leona Wolf et Lytton Strachey sont de fils réformés, beaucoup de ceux qui composent le groupe de Bloomsbury, profondément pacifistes, veulent échapper à la mobilisation. Ils se déclarent alors « objecteurs de conscience », statut que la Grande-Bretagne accorde en échange d'un service à la nation, en l'occurrence le travail agricole. Clive Bell se fait embaucher au domaine de campagne de Lady Ottoline Morrell, dans le Sussex, où passe aussi Lytton Strachey. Non loin de là, Vanessa Bell s'installe quant à elle dans une ancienne ferme particulièrement bucolique, nommée Charleston House. C'est donc là que certains vont passer la guerre pour travailler au champ. Et à Charleston, comme à Bloomsbury, on vit comme on l'entend. Si son mari passe parfois, Vanessa vit surtout avec leurs deux enfants, Julian et Quentin, et aussi avec Duncan Grant, son ami et amant, lui-même accompagné de son propre amant, David Garnett. C'est aussi dans cette maison que naît Angelica, le troisième enfant du couple Bell en 1918. Si elle est enregistrée sous ce nom à l'état civil, elle est en réalité la fille de Duncan, ce qu'elle ne découvrira que 20 ans plus tard, au moment d'épouser David Garnett, l'ancien amant de son père biologique donc. C'est un sac de nœuds qui témoigne autant de la volonté de faire voler en éclats toute forme de cadres moraux et familiaux que d'une déconcertante légèreté, dans la mesure où personne n'a pensé ce que de telles excentricités, de tels mensonges pourraient susciter chez la jeune Angelica. Et elle va en pâtir, évidemment. C'est aussi dans la maison de Charleston que s'installe un temps John Maynard Keynes, lui-même ancien amant de Duncan Grant. Keynes a entamé une brillante carrière de fonctionnaire conseiller au Trésor, ce qui a agacé certains de ses amis, plutôt opposés à ce fourvoiement avec un État belliciste. Mais Keynes démissionne en 1919 alors qu'il participe à la conférence de paix qui prépare le traité de Versailles. Il est atterré de voir que seul le souci de revanche et d'humiliation guide les vainqueurs. Les exigences financières envers l'Allemagne ne feront, selon lui, que l'empêcher de développer son économie et donc sa solvabilité pour payer des réparations dont les montants sont bien trop élevés. Keynes développe sa pensée dans un ouvrage, « Les conséquences économiques de la paix », qu'il écrit depuis sa chambre de Charleston House. Vous l'avez compris, la maison est le pendant rural de Bloomsbury. C'est là que les amis viennent passer du temps ou créer ensemble, notamment dans l'atelier de peinture que Vanessa et Duncan partagent. La sœur, Virginia, n'est bien entendu pas loin puisqu'elle vit dans une maison à seulement 15 km quand Ken s'installera ensuite avec son épouse Lydia Lopukova, danseuse des ballets russes, juste au bout de la route. Mais la guerre et la vie campagnarde, si elles ont rapproché certains, ont participé à éloigner d'autres membres du Bloomsbury. Et en 1920, c'est sur proposition de l'écrivaine Molly McCarthy, épouse de Desmond, critique littéraire, que certains commencent à se réunir de manière informelle pour se raconter les uns les autres. Ces rencontres sont nommées « The Memoir Club ». On lit des textes, des mémoires personnelles qu'on n'hésite pas à mettre en scène dans leur oralité. On décrit des souvenirs, des rencontres, des instants. On transforme les amitiés en sujets littéraires. Convoquer le passé par les réminiscences de chacun participe à une sorte de récit du groupe, non pas comme un ensemble, mais comme la somme des individualités qui la composent. De son côté, Virginia Woolf commence à avoir du succès, notamment par ses romans « Nuit et jour » en 1919, puis « Mrs. Dalloway » paru en 1925, où l'introspection des personnages prend le pas sur l'intrigue. La carrière de Maynard Keynes s'envole en même temps que son poids dans les cercles économiques et de pouvoir. Vanessa Bell peint énormément, tout comme Duncan Grant, qui devient l'un des artistes anglais contemporains les plus connus. Leona Wolf est largement engagée en politique pendant que Roger Fry, fort d'avoir importé la modernité picturale en Angleterre, est un personnage influent du monde de l'art. Et on ne peut citer ici toutes les personnes proches ou lointaines du groupe qui, par leurs actions et leurs créations, participent à l'émulation du temps. C'est cette multiplicité, cet aspect protéiforme qui fait à l'époque, et plus encore à la nôtre, deviser beaucoup de commentateurs sur la réalité constitutive du groupe. Et si, comme le dira Clive Bell, le Bloomsbury Group n'existait pas? Oui, comme il n'y a pas grand-chose pour tenter de saisir ce que serait Bloomsbury en tant que groupe. Pas de manifeste, pas d'événements communs autres que des rencontres informelles, pas de ligne politique, pas de but précis, si ce n'est celui d'assouvir une certaine soif de vivre librement et de créer, indépendamment des codes de l'époque, dont on rappelle qu'ils étaient particulièrement rigides et bornés. Le groupe de Bloomsbury se retrouve plus dans une sensibilité commune que dans une quelconque construction théorique, même si les membres défendent, chacun leur façon, le modernisme, l'émancipation morale, le pacifisme et une certaine vision hédoniste du monde. D'aucuns leur reprocheront un aspect totalement hors sol et les visées vaguement socialistes de ces jeunes gens bien nés, pour beaucoup héritiers ou rentiers, qui ont le loisir de créer. Le groupe de Bloomsbury n'a pas de début et pas de fin. Il s'est créé de lui-même, sans le vouloir, et s'éteint aussi de lui-même, au gré des amitiés distendues ou des décès. D'abord, dans les années 30, avec Lytton Strachey et Roger Fry, puis avec le suicide de Virginia Woolf, qui met fin à ses jours, craignant de sombrer dans la folie qui la guette depuis trop longtemps. Un mythe s'écrit ensuite, plus en Angleterre qu'en France, où, excepté Virginia Woolf et John Maynard Keynes, dont on a appris les théories en cours d'économie, la plupart des membres du Bloomsbury Group demeurent relativement inconnus. Ils ont pourtant chacun, sans forcément se revendiquer d'une pensée collective, nourri un creuset intellectuel qui a rendu possible l'émergence d'une certaine forme de modernité, quel qu'en soit le domaine. Plus tard, à partir des années 60 et 70, c'est aussi l'aspect licencieux d'un groupe d'amis où beaucoup couchent les uns avec les autres qui fera parler. Au-delà de l'aspect grivois et croustillant, ces libertés sexuelles symbolisent aussi un monde transgressif qui se crée ses propres règles, ce qui est peut-être le plus important. Et derrière l'image de bourgeois paresseux à la cuisse légère, peut-être furent-ils, ainsi que l'a écrit Virginia Woolf, à qui je laisse le mot de la fin, juste sauvage, étrange, innocent, naturel, excentrique et industrieux, plus qu'on ne saurait le dire.
Europe 1, historiquement vôtre.